gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
À tous, vous êtes bien à l'antenne de Radio Canu, 22h, c'est l'heure de la causerie, retour au direct, après les bandes continues.
Et après, il y avait une émission.
Il y avait une émission, puis des bandes continues, puis voilà. C'est nous, c'est la causerie. Voilà, et bien ce soir, dans les studios, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Il y a Fab aussi.
Salut.
Et moi.
Et Jean-Yves qui a fait le lancement.
Bonsoir. Eh bien, alors la causerie, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous rappeler comment nous joindre, tout ça, où vous pouvez nous retrouver. Alors déjà, pour nous joindre, le plus simple, c'est de nous envoyer un mail.
lacauseriecanu@gmail.com, tout attaché, lacauseriecanu@gmail.com.
C'est ça. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires, retrouver les anciennes causeries, les témoignages, enfin tout ce que la causerie a pu
pondre.
Oui, j'allais dire produire, mais ça faisait vraiment.
Je sais pas chercher un mot. Tu t'es arrêté.
Partager.
Donc, partager.
Partager.
Voilà.
Ouais.
C'était bien.
Ouais, parce que produire, ça faisait vraiment dégueulasse.
Pondre, c'est pas terrible non plus.
C'est non, j'ai été pris de court.
Enfin, donc si vous voulez retrouver tout ça, ça se passe sur le blog et le blog, c'est à l'adresse blogs. Au pluriel donc, .radiocanu.org/lacauserie.
Sinon, dans ton moteur de recherche, tu tapes les blogs de Canu, la causerie, et tu tombes sur nous.
Mais voilà, il y a ça aussi.
Bah, oui.
Et puis, on est aussi sur un des réseaux sociaux qui a le vent en poupe.
Oh, c'est bien dit, ça.
Oui, je sais pas.
Facebook, envie. Quoi, pour pas le nommer.
C'était ça, ouais. Tu fais bien parce que je voulais pas le nommer. Donc voilà, mais là-bas, vous y trouverez simplement juste les posts des émissions qui sont passées.
Mais vous pouvez nous partager, ça nous aide bien.
Aussi.
Voilà.
Voilà.
Par mail, par ce que vous voulez, mais voilà.
Voilà, voilà. Eh bien, ce soir, programme chargé.
Ouais.
Ça commence. Eh bien, c'est Fab, tu vas nous faire un truc qui est vraiment dans l'air du temps,
ah
tu
ouais,
vas
là,
nous
ouais.
causer de Macron et de ses ordonnances.
Oui, je vais vous parler de Macron d'abord, et puis après on va élargir un peu sur les ordonnances. Alors déjà, on va arrêter un petit peu de se mentir. Macron, il n'a rien de neuf, hein, il paraît comme ça neuf, mais il est dans la continuité d'un Schröder ou d'une Thatcher, un Schröder en Allemagne, Thatcher au Royaume-Uni. Donc c'est une politique ultra-libérale qui est mise en place depuis une trentaine d'années, voilà, ce qu'on a appelé la revanche, hein, c'est pas nous qui le disons, c'était le MEDEF, l'ex numéro 2 du MEDEF qui disait qu'il fallait prendre sa revanche. Voilà, et c'est très clairement une bonne grosse revanche des possédants sur les créateurs de richesses. Les créateurs de richesses étant, je vous le rappelle, ceux qui produisent, c'est-à-dire nous. Voilà. Côté programme, là on s'est un peu viandé, hein, plein de gens arrêtent pas de dire oui, il avait pas de programme, ceci, cela, machin. Alors, c'est pas vrai, il suffit de reprendre le site de La République En Marche, à l'époque c'était En Marche d'ailleurs que ça s'appelait, pour voir que 98% de ce qui est annoncé aujourd'hui était dans son programme, alors de façon soit directe, soit indirecte, c'est-à-dire que le principe d'un programme politique, c'est aussi de mentir, donc voilà, mais clairement, il y a quand même pas de grande, on n'est pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. C'était écrit noir sur blanc, quoi.
Oui, ou alors ça va viser aussi de tournure, c'est-à-dire plutôt que de dire on va diminuer le droit des travailleurs, ça va être on va jouer sur la flexi-sécurité.
Oui, voilà.
Non, mais je veux dire, c'est aussi ce langage-là politique qui finalement, des fois, peut-être met une distance en fait pour qu'il soit moins compréhensible et...
On est d'accord, mais quand on entend des journalistes dire « il n'y avait rien dans le programme », c'est une connerie, parce que s'ils savaient un peu lire, c'était écrit. Quoi. Oui. Par contre, c'est assez simple. Pour moi, c'est symptomatique de notre époque. Il suffit qu'un petit nouveau arrive, hein, jeune, 40 ans, semblant dynamique, tout ça, pour qu'on se dise tout est nouveau chez lui. C'est-à-dire, comme il est nouveau, tout est nouveau, sauf que ce n'est pas vrai. En fait, il a des vieilles recettes. C'est des vieilles recettes libérales, comme Attali pouvait les proposer dans les années 80, comme un Madeleine pouvait les proposer sous Sarkozy, donc rien de bien neuf. Et en fait, il a une vision un petit peu du social qui ressemble à celle de Burger King, en fait. Alors, je vous explique pourquoi je dis ça. C'est que, plutôt que de jeter ses hamburgers, Burger King, il les propose maintenant en burger surprise aux gens, à 2 euros. C'est pas cher, c'est bien.
Waouh, la surprise!
Voilà. Et en fait, le président de Burger King dit c'est bien, parce que comme ça, même les gens qui n'ont pas de sous, ils peuvent avoir des burgers bons. Oui, alors ça revient quand même à dire que les personnes qui n'ont pas de sous n'ont pas à choisir, hein, c'est le principe. Et en fait, ils choisissent pas ce qu'ils manquent et ce qu'ils mangent. Et donc Macron, c'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est le social façon, quand on aura des miettes à vous balancer, on vous les balancera. Donc il n'y a rien vraiment de neuf là-dedans et pas du tout de volonté d'émancipation des plus pauvres, et bien au contraire, une volonté de les rabaisser encore et toujours. Alors je vais maintenant parler clairement de la destruction du code du travail. Je suis désolé, je vais être un peu technique, je vais être un peu long, je le sais, donc je m'excuse auprès des auditrices et des auditeurs, mais je vais essayer de faire ça de façon la plus légère possible.
Ouais, mais l'idée, à un moment donné, quand il y a un gros truc comme ça qui nous arrive sur la gueule, comprendre dans les grandes lignes ce qui va se passer, ça prend du temps, et on s'est dit qu'à la causerie, on vous proposerait ça.
Voilà. Donc en fait, on va déjà partir d'une chose très claire, les ordonnances qui vont être données, ordonnances on dit données, parce que c'est un ordre, hein, comme son nom l'indique. Donc les ordonnances, elles viennent du prince, hein, c'est-à-dire du président, qui décide comment la France va tourner. Alors on va se rassurer tout de suite, les ordonnances, c'est pas la première fois que c'est utilisé, ça a été utilisé sous tous les gouvernements quasiment. C'est pas neuf, par contre, c'est très clairement pas du tout démocratique, hein, faut quand même pas déconner. C'est quand même un homme qui décide pour 64 millions d'autres. Alors si pour vous c'est une vision de la démocratie acceptable, pas pour moi. Voilà, alors je vais juste balayer 2-3 trucs. Déjà rappeler que le MEDEF est très content de ses ordonnances, donc il faut commencer à se méfier. Et aussi que, bizarrement, il a beaucoup, beaucoup participé à leur élaboration. Hein, donc, notamment en ayant dépêché auprès du candidat, à l'époque, plusieurs conseillers, qui aujourd'hui, je pense, sont très bien écrits. Alors, on va déjà dire une chose qui est assez nouveau, c'est que dans les ordonnances qui sont aujourd'hui sur la table, contrairement à la loi El Khomri, les règles supplétives ne seront pas à droit constant. Alors, qu'est-ce qu'une règle supplétive ? C'est-à-dire que quand vous changez un article, je prends un exemple tout bête, il est écrit dans un article du Code du travail, les salariés ont le droit à 5 jours de congés payés pour telle raison. Quand vous le réécrivez, vous ne pouvez pas diminuer le nombre de jours de congés payés. Le droit est acquis. Le fait de dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas à droit constant, ça veut juste dire qu'à chaque fois que vous réécrivez quelque chose, vous pouvez diminuer les droits qui sont existants. Bien sûr, les communicants nous disent que c'est aussi pour les augmenter. Bizarrement, vous le verrez dans les ordonnances, il n'y a rien qui augmente, donc c'est étrange.
C'est bizarre.
Voilà, mais déjà je voulais le rappeler parce que peu de journalistes le disent et je trouve ça assez étonnant que personne n'ait relevé cette phrase qui est une phrase d'introduction quand même, hein, donc voilà. Donc la première ordonnance, c'est le renvoi à l'entreprise de la quasi-totalité des droits, donc en fait c'est en réalité la généralisation du dumping social. J'expliquerai pourquoi plus tard, mais en fait, quand vous renvoyez à l'entreprise, ça veut dire que plus votre entreprise a de pouvoir, donc votre patron en réalité a de pouvoir, et plus il peut diminuer vos droits pour gagner des marchés. Ça s'appelle le dumping social, pour ceux qui en entendent parler plein de fois. Voilà, vous irez plus vous énerver après le plombier polonais, ça servira plus à rien, vous vous énerverez après le travailleur d'à côté. oui, c'est un peu l'idée, hein, se diviser pour mieux régner. Donc, ça commence déjà par le travail de nuit, hein, qui au départ était quand même plutôt encadré, et même la loi El Khomri n'avait pas osé revenir sur les notions de travail de nuit. C'est-à-dire que je vous rappelle que le travail de nuit commençait dans la plupart des branches à 5h, jusqu'à 5h du matin et à partir de 21h. C'est-à-dire que c'était la plage qu'on disait de travail de nuit. Quand vous étiez entre 21h et 5h, en gros, vous étiez considéré comme un travailleur de nuit, partiel ou total, ça dépendait si vous preniez toute la nuit ou pas. Et ça donnait droit à des majorations, c'est-à-dire que ce soit des majorations financières ou dans certains secteurs, ça pouvait donner droit, par exemple, à des droits à la retraite avancée. Et tout ça va sauter, tout simplement parce qu'en fait... L'idée, c'est d'augmenter la durée maximum du travail de nuit, donc la possibilité de faire le plus de nuit qu'aujourd'hui, mais en contrepartie, de supprimer les contreparties obligatoires en matière de repos et de rémunération. Bah oui, parce que c'est une demande du MEDEF depuis des années, c'est-à-dire de pouvoir faire travailler plus de gens la nuit, bah, pour une raison très très simple, c'est souvent qu'ils ont des horaires d'énergie, vous savez, les fameuses heures creuses, heures pleines, et ça leur permet, même dans l'industrie ça existe, ça permet de gagner sur des petits broutilles comme ça, et ça permet surtout d'avoir des salariés corvéables à merci, parce que quand vous êtes là la nuit, c'est très très rare que vous soyez dans des conditions optimales pour aller bien. Et donc, bah, l'idée, c'est ça, c'est d'augmenter, de diminuer, je veux dire, la rémunération et les repos.
Oui, parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces majorations, comme on peut appeler ça, de nuit, enfin, elles sont pas venues parce que les patrons voulaient notre bien-être, en fait.
Hein. Ah non, ça a été gagné. Hein.
Oui, ça a été gagné, et c'est pas par hasard non plus. C'est parce que le travail de nuit, on le sait, sur le long terme.
Bah, c'est usant, ça pue, ça casse.
C'est, voilà, ouais, c'est.
Je rappellerai juste que le travail de nuit, c'est une victoire de 1968. Hein. Voilà, pour les gens, je vais les replacer comme ça de temps en temps. Donc en fait, l'idée, c'est de modifier la définition du travail de nuit, qui correspond aujourd'hui au travail effectué entre 21h et 6h du matin. Bah, demain, cette plage horaire pourrait être raccourcie par une simple dérogation votée dans votre entreprise. Voilà, on pourrait estimer que le travail de nuit, eh ben, finalement, il est de, je sais pas, minuit à 2h du matin. Voilà, c'est beau, hein. Voilà. Autre chose qui est rentrée dans la loi, c'est le télétravail. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a des tas de gens qui aujourd'hui vont pouvoir être soumis au télétravail. Alors, il y a des gens qui font du télétravail volontaire, c'est-à-dire qu'ils choisissent de le faire, sauf que là, l'idée de la loi, c'est de le rendre obligatoire. C'est-à-dire que votre employeur pourrait dire, eh ben, écoutez, vous allez faire 2 ou 3 jours chez vous en télétravail plutôt que de venir dans l'entreprise, parce que comme ça, j'ai pas besoin de prendre des locaux avec 80 places. Si on est 80, je peux en prendre avec 40 places, et puis la moitié de la semaine, vous êtes chez vous, et comme ça, on finira par arriver à mettre que 40 personnes dans nos locaux. Donc, ce qui est important, c'est que les ordonnances pourraient autoriser les entreprises à définir elles-mêmes l'ensemble des droits des télétravailleurs. Jusqu'à maintenant, le télétravail, il est encadré par le Code du travail. Ça veut dire que tous les gens qui sont en télétravail ont les mêmes droits. C'est le principe d'un code du travail. C'est-à-dire que tous les travailleurs soumis à une contrainte, ben, ont les mêmes droits, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils se trouvent. Ben là, en fait, avec les ordonnances, selon l'entreprise dans laquelle vous vous trouverez, vous n'aurez pas les mêmes droits. C'est merveilleux, c'est magnifique. Si ça, c'est pas du dumping social, voilà, c'est beau. Hein. Alors, il faut savoir qu'en 2005, il y avait eu quand même un accord signé par l'ensemble des syndicats sur le télétravail qui empêchait justement le fait que des droits différents s'appliquent selon les entreprises. C'est un accord qui avait été quand même issu de mouvements, comme il y a eu des mouvements de grève en 2005 assez forts, et surtout issu d'une grande concertation qui avait été lancée sur l'idée de moderniser, vous savez, c'était le truc du numérique à l'époque, de moderniser le travail. Oui, moderniser, le mettre à toutes les sauces. Et donc, en fait, les ordonnances vont revenir très clairement là-dessus. Et c'est pas rien, hein. Ça a l'air comme ça tout bête, ça peut concerner jusqu'à 7 millions de salariés en France. C'est énorme, hein, 7 millions. C'est-à-dire que, je vous rappelle que le nombre de salariés en France, c'est 26 millions. 7 millions sur 26 millions.
Il y a 7 millions de personnes qui font du télétravail.
Qui pourraient potentiellement être soumis au télétravail.
Ouais, okay.
C'est-à-dire que tout le monde va le faire, mais qui pourraient. Qui sont dans des secteurs où ça serait applicable. Autre truc vachement marrant dans ces petites ordonnances, le fait d'autoriser à fractionner les 11 heures de repos obligatoires. Ça, le MEDEF, ça fait juste, hein, comme ça, pour info, 45 ans qu'il le demande. Donc voilà, parce que voilà, c'est pour que vous l'ayez en tête. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça revient à fractionner ? Bah, c'est par exemple de dire jusqu'à aujourd'hui, quand vous travaillez, lorsque vous arrêtez votre poste du lundi, vous devez avoir 11 heures entre votre poste du lundi et votre poste du mardi. C'est comme ça, c'est la loi. Et ça permet à des gens, notamment, je pense aux gens qui restent, qui font des heures supplémentaires, bah, je pense aux médecins, aux infirmières, aux choses comme ça, de pouvoir faire valoir le droit de se reposer, vous voyez, de dire, ben là, je reprends que dans 11 heures, parce que, voilà. Eh ben non, avec cette loi, on pourra le fractionner, c'est-à-dire qu'on pourra le couper en deux, et dire, ben, tu fais 5h30, puis tu reviens, puis après, t'auras de nouveau 5h30. C'est beau, hein, mais ça, c'est dans les ordonnances.
Oui, ça fait rêver.
Voilà. La durée légale du travail n'est rappelée dans aucun document. Alors ça peut paraître comme ça une bonne chose, le gouvernement dit bah si on n'en parle pas c'est qu'on va pas y toucher, sauf que c'est pas vrai. Quand on rappelle pas dans des ordonnances quelle est la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine, c'est qu'en gros eh ben on est en train de donner de la latitude au patronat. Pourquoi ? Parce qu'en fait eh ben il pourra dire mais il y avait rien dans les ordonnances sur la durée du travail. Donc pourquoi est-ce que on pourrait pas nous négocier le temps de travail par entreprise, vous voyez par exemple. Eh ben c'est d'autant plus vrai que en réalité ce qui existait déjà dans la loi El Khomri, c'est-à-dire qui permettait aux entreprises de définir des temps de travail supérieurs à 35 heures, est non seulement renforcé dans les ordonnances qui ont été mises sur la table, mais en plus, les ordonnances vont permettre de descendre en dessous de 10% de majoration pour les heures supplémentaires, par exemple, au-delà de 35 heures. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra très bien dire, bah, dans notre entreprise, on fait 39 heures, mais on ne paye pas les 4 heures en majoration, les 4 heures en plus. Bah non, parce que comme ça, nous, c'est pour notre bien de l'entreprise, vous voyez, c'est toujours le truc, hein. Ce qui reviendra en fait, bah, en réalité, dans les faits, tout simplement de supprimer la durée légale du travail. Bah oui, parce que si chaque entreprise peut négocier un accord de temps de travail au niveau de l'entreprise, en dehors des branches et en dehors du code du travail, bah évidemment, voilà. Je vais rappeler ce qu'est les branches, parce qu'il y a des gens souvent qui se demandent c'est quoi une branche. Bah une branche, c'est le secteur dans lequel vous travaillez. Par exemple, il y a la métallurgie, il y a la chimie, c'est les grandes branches connues, la presse, il y a la branche de la restauration aussi, vous voyez. Et en fait, c'est des accords collectifs qui existent et qui en fait protègent tous les salariés de la même façon. C'est en plus du code du travail. C'est-à-dire tous les accords de branche sont généralement en plus du code du travail, permettent de faire des choses en plus. Et en fait, eh ben, ces ordonnances vont permettre de passer par-dessus, c'est-à-dire de revenir qu'au niveau de l'entreprise. Prenons un exemple. Vous avez une société qui fait des livraisons. De toute façon, en ce moment, on en parle beaucoup de Deliveroo et compagnie, tout ça. Elle fait des livraisons et donc elle a des salariés pour faire ces livraisons. Et elle décide, par exemple, que ben, pour survivre, il va falloir qu'elle passe le temps de travail à 43 heures. Non rémunéré en plus, hein, 43 heures payées, ouais. mais sans majoration. Vous croyez que le concurrent de cette entreprise va se dire bah, « Moi, je reste à 35 parce que je vais arriver à les concurrencer. » Non, ça s'appelle du dumping social. C'est-à-dire que ça va tirer tout le monde vers le bas et très très vite, en fait.
Oui, en fait, là où avant on faisait la guerre, justement, ce que tu disais, en fait, aux plombiers polonais, etc. Ah bah, oui. En fait, maintenant, c'est vraiment, oui, on fait la guerre en interne.
C'est
en fait.
Ça, l'idée, c'est que tous les salariés soient
on
en concurrence
sur la
les
gueule,
uns, voilà, divisés pour mieux régner.
C'est ça.
Et rien n'empêche non plus le gouvernement de légiférer pour généraliser le travail du dimanche, comme il avait commencé à le faire dans la loi Macron de 2015. Oui, parce que loi Macron, Macron président, je le vois mal faire autre chose, en fait. Juste comme ça. Parce que dans les ordonnances, très clairement, le dimanche devient un jour ouvrable. C'est écrit tel quel, hein, donc voilà, démerdez-vous avec ça, en gros. Hein. Voilà. Sauf le 1er mai, ils sont gentils.
Ils sont gentils.
On va venir au contrat de travail maintenant, qui est la deuxième partie. Le projet autorise le gouvernement à modifier de fond en comble les règles légales régissant le contrat de travail en les renvoyant à l'accord d'entreprise. Oui, vous entendez bien. Fini en fait le contrat de travail adossé sur le code du travail, c'est-à-dire sur des accords collectifs et qui couvrent tous les salariés. Maintenant, selon l'entreprise où vous allez travailler, si ces ordonnances passent et si personne n'est assez dans la rue pour les empêcher, eh bien vous aurez des droits différents selon l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est merveilleux, c'est ce dont rêve le MEDEF, c'est-à-dire revenir à avant 1936. Hein, voilà, c'est juste ça en fait pour passer historiquement. Alors c'est très intéressant parce que de la même façon, le recours au CDI et au CDD est renvoyé au niveau de l'entreprise. Ça, c'est juste magnifique. Hein. Ça veut dire que, par exemple, l'entreprise, par une simple négociation au sein de l'entreprise, et on viendra après sur les instances de négociation, on verra que c'est encore plus drôle, simple négociation, bah, vous pouvez créer des nouveaux cas de recours au CDD. Voilà, vous créez un truc spécifique à votre entreprise. Je sais pas, il n'y a plus de café dans la machine, donc on prend un CDD. Ouais, ça, je prends des exemples complètement farfelus, mais ça pourrait être ça, quoi.
Oui, parce qu'avant,
c'est encadré.
Jusque maintenant, c'est encadré.
C'est oui, ça, c'est dans le code du travail. Les cas de recours, ils sont délimités par le code du travail. Là, vous pourrez créer les cas de recours qui vous intéressent. De la même façon, vous pouvez supprimer la durée maximale du nombre de fois où on pouvait renouveler un CDD ou du nombre de mois pendant lesquels vous pouvez garder un CDD. Alors, bon, le porte-parole du gouvernement nous a gentiment dit on n'excédera pas 5 ans. Hein. Voilà, ouais. Vous voyez, on va peut-être mettre 5 ans dans le code du travail. Ça, vous pourrez être en CDD pendant 5 ans dans une entreprise.
C'est génial.
C'est beau, hein. Voilà.
Donc, aujourd'hui, c'est...
Aujourd'hui, c'est 18 mois maximum et renouvelable 3 fois maximum. Ça, c'est le code du travail.
Ok.
Ça, je rappelle, c'est juste une victoire de 1968 aussi. Voilà. Je les replace. De la même façon, en fait, vous pourrez modifier le montant de l'indemnité de précarité. Aujourd'hui, elle est fixée par le code du travail à 10%. Et ben, dans une entreprise, on pourra négocier autour d'une table de se dire, bon, la précarité, ça va, on la met à 3%, on va pas déconner, quoi. Vous voyez, parce que nous, on n'a pas les moyens, hein. Évidemment. Et de la même façon, les conditions et conséquences de la rupture du CDI seront négociées en interne de l'entreprise. Ça, c'est beau, hein. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'en fait, eh ben, vous pourrez être viré pour des raisons qui seront propres à votre boîte. C'est beau quand même, hein, imaginez. Par exemple, il suffira d'avoir un accord qui dit « Je veux que les salariés aient une constance dans leur beauté vestimentaire dans l'entreprise, car ils représentent la boîte. » Par exemple, un truc un peu... Aujourd'hui, au Prud'homme, il y a plein de gens qui réussissent à faire retoquer des licenciements parce qu'ils ne portaient pas la bonne tenue, vous voyez. Mmh. Bah, si vous mettez ça dans un accord, vous pouvez virer la personne en disant « Ah ouais, il est venu avec des baskets, il ne rentre pas. » Vous voyez, je prends un exemple vraiment extrême, mais c'est ça. Donc, ben, tous ces éléments définis par la loi, Eh ben ils vont disparaître de fait et ils vont être envoyés à l'entreprise. Je vous laisse imaginer un petit peu le fouillis que ça va être. Ce qui est aussi dans les ordonnances, c'est qu'il pourrait permettre de prédéfinir les motifs de licenciement, soit dans le contrat de travail, voilà, soit dans un simple accord d'entreprise. Ça, le MEDEF, ça fait juste 30 ans qu'il demande ça, hein, donc vous voyez, il est servi là en ce moment.
Ce qui veut dire
par exemple, que vous pouvez mettre une clause de productivité.
Ah oui, dans ton contrat, c'est-à-dire que si tu descends sous la productivité, t'es viré.
Voilà, vous pouvez mettre une clause d'amabilité aussi, ça existe hein, en Allemagne par exemple, c'est ce qui existe aujourd'hui, vous mettez le salarié doit être aimable, vous voyez. Et si votre chef définit que vous n'êtes pas aimable, bah, vous êtes viré, par exemple, c'est un truc surréaliste, hein. Mais c'est ce qu'on va avoir sur la table là en ce moment. Alors, je vais rentrer dans un autre domaine qui est aussi très important, c'est la santé et la sécurité. La santé et la sécurité, je vous rappelle, aujourd'hui, est définie dans le code du travail, lui aussi, ou dans les accords de branche. C'est-à-dire qu'on estime que tous les salariés en France doivent avoir la même protection en termes de santé et de sécurité, la même protection minimale. Je vous rappelle que le code du travail, c'est toujours un minimum. C'est pas la panacée, hein. Et ben, en fait, dans les ordonnances, on se rend compte que tout est renvoyé au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est très très fort. Ça veut dire qu'il va falloir négocier, par exemple, les droits d'alerte. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, il va falloir se mettre autour de la table et dire à partir de quand on a le droit de dire là c'est dangereux. Oui, c'est surréaliste hein, quand même à un moment donné. Et ben c'est ce qu'on met dans ces ordonnances-là. Il va falloir donc se mettre autour de la table, hein, alors patronat avec les syndicats, et puis quand il n'y a pas de syndicats, je vous le dirai plus tard, mais on pourra le faire avec de simples salariés désignés et dire alors, par exemple là, s'il met la main sous la scie sauteuse, est-ce que c'est la faute de l'entreprise ou pas hein? Ah bah peut-être pas, parce qu'en fait l'entreprise elle avait mis des caches, il avait qu'à mettre des caches, donc ça c'est pas la faute de l'entreprise. En fait c'est une diminution des moyens qui existaient aujourd'hui pour les élus de faire des droits d'alerte dans l'entreprise quand il y avait des situations de danger. Ce n'est ni plus ni moins que ça, et c'est super grave. Et ce qui est très grave, c'est aussi que bah, tous les risques psychosociaux et tous les risques qui sont liés au harcèlement relèvent du droit d'alerte. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est aujourd'hui l'une des causes les majeures de mal-être dans l'entreprise va revenir aux mains du patron qui vous embauche, et pas du tout aux mains d'une loi qui est au-dessus de ce patron. C'est juste hyper dangereux quand on y réfléchit. Hein. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils proposent. Alors de la même façon, hein, ils vont détruire l'information et la formation des salariés sur les risques psychosociaux et compagnie, vu que ça vient dans le main du patronat. La protection des mineurs de moins de 18 ans, eh ben, elle saute aussi, hein, donc ce sera au niveau des entreprises. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans le code du travail, il y a des métiers qui sont interdits aux mineurs, tout simplement parce qu'ils sont, déclarés comme dangereux. Eh ben, tout ça, ça va être au niveau des entreprises aussi. Les obligations relatives aux équipements de sécurité ne seront plus généralisées, mais elles seront propres à chaque entreprise. L'organisation des locaux de travail, fenêtres, vestiaires et compagnie sera propre à l'entreprise et plus dans des normes en fait. C'est très magnifique. Hein. Et les modalités de prévention contre les risques spécifiques, chimiques, biologiques, sonores et compagnie, bah, seront aussi au niveau de l'entreprise. Voilà, amusez-vous bien.
Donc en fait, on va devoir batailler chacune dans nos petits coins et
c'est ça.
Essayer de faire au mieux. Quoi.
C'est ça, exactement. Alors évidemment, si vous êtes dans un grand groupe, je pense que vous aurez moins de problèmes, que c'est parce qu'il y aura des structures syndicales, parce qu'il y aura des habitudes prises et qu'on ne va pas revenir en arrière, que quand vous êtes dans une PME ou TPE. Il faut être très clair, hein, ça c'est typiquement les trucs qui sont pour les PME, TPE. C'est ce qu'ils appellent la dénormalisation du travail. Mais quand on enlève des normes, en fait on enlève des protections.
Oui, c'est ça, on met en danger les travailleurs et les travailleuses. Quoi.
Attendez, je n'ai pas fini, parce que c'est là qu'on rigole. Je vais vous parler du salaire maintenant. Bah oui, parce que le salaire jusqu'à maintenant, bah, généralement en France, il a plutôt augmenté, même si on s'en rend pas compte, mais globalement il augmentait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des accords de branche. Et les accords de branche faisaient que les salaires minimums bah, augmentaient. Et les gens qui étaient au SMIC avaient une augmentation chaque année qui permettait d'augmenter le SMIC. Voilà. Donc en fait, en réalité, globalement, les salaires n'ont pas suivi l'inflation, mais ils ont globalement augmenté. Et bah ça c'est fini. Pourquoi ? Parce que le salaire est renvoyé lui aussi au niveau de l'entreprise. Donc, et ça s'appelle découpler de la branche. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que bah, votre patron, il va négocier avec qui il veut au final des augmentations de salaire, mais il sera plus contraint par des lois spécifiques. C'est-à-dire qu'une augmentation du SMIC, il pourra s'asseoir dessus.
D'accord.
Je vous rappelle juste comme ça qu'il y a 13% des salariés qui sont au SMIC aujourd'hui. Mmh. Ça veut dire que bah, ces gens qui sont donc à la limite de la précarité, parce que c'est l'idée, hein, à la limite de la pauvreté, je veux dire, c'est l'idée, le SMIC il est théoriquement à la limite de la pauvreté, même si on sait qu'en réalité on est dans la pauvreté au SMIC, et ben en fait ils vont plus voir une augmentation qui sera calculée comme c'était le cas aujourd'hui par rapport à l'indice INSEE. Non, selon l'entreprise où ils seront ou pas augmentés. C'est beau, hein.
C'est génial.
Voilà, donc en fait, c'est le vœu du MEDEF qui est exaucé, abracadabra. Voilà. Pareil, le salaire conventionnel, c'est le salaire de référence au niveau d'une classification. Ça paraît, c'est dans une branche, quand vous êtes dans une branche. Je prends l'exemple tout bête, vous êtes livreur, par exemple, ou vous êtes... Tiens, donc je prends un exemple que je connais bien, vous êtes technicien. Dans une branche qui est liée à la branche de la chimie, bah vous savez que pour tel coefficient, vous avez tel salaire minimum. Mmh. Voilà. Et bah ça n'existe plus. Voilà, on revient sur les grilles de classification. Contrairement à ce que disait Force Ouvrière, qui nous disait, c'est pour ça qu'ils ont pas, ils vont pas aller, parce que ça reste aux mains de la branche, bah c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, il peut y avoir un accord dérogatoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un accord dérogatoire d'entreprise qui dit, bah nous, on est en difficulté, et pendant 5 ans, on se découple de la branche parce qu'on n'y arrivera pas. Je suis désolé, quand on commence à voir ça, on voit bien ce que ça va faire, c'est que très rapidement, en fait, bah les accords de branche vont disparaître de fait, et tout va revenir au niveau de l'entreprise. De la même façon, les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, aujourd'hui, tirent vers le bas. On le sait, parce que le fait d'exonérer que sur les bas salaires, ça tire vers le bas. Alors, pour éviter ça, le gouvernement propose qu'en fait, on fasse des exonérations en fonction de la productivité de l'entreprise. Voilà. Je vous laisse voir à peu près ce que ça va donner. Je vais juste finir sur le dernier point. Après, je vous fais une petite coupure. Je vais vous parler de l'emploi. Alors, certains droits très importants pour l'emploi peuvent être attaqués par ces ordonnances. Par exemple, on peut prévoir que la part de salaire perçue par les salariés lorsque leur employeur les place au chômage partiel peut être négociée pour chaque entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a plus une couverture qui est liée au Code du travail qui dit « en chômage partiel, on touche tant ». De la même façon, il peut y avoir des choses aussi folles que l'impossibilité de diminuer la rémunération en dessous de 120% du minimum conventionnel, c'est-à-dire ça, c'était une loi qui existait aujourd'hui, on ne pouvait pas descendre en dessous de 120%, c'est énorme 120% quand vous réfléchissez. Là, on peut découpler, c'est-à-dire qu'on peut y aller et descendre encore et encore et encore. Et donc, on peut très bien imaginer demain des cadres, par exemple, qui seraient embauchés au SMIC. Vous voyez, je donne un exemple très concret. L'obligation de prévoir des efforts des dirigeants et des actionnaires, c'était la loi qui disait, c'est les fameuses trucs qu'on touche, c'est la participation, l'intéressement, tout ça dans les grands groupes, ça sera plus obligatoire non plus. Voilà. Et puis, par exemple, on peut aussi dire que on peut revenir sur des choses très très faibles, mais ça c'était des faibles trucs, c'est pas des machins. On peut par exemple revenir à l'idée qu'on peut avoir plus de 5 ans sans augmentation de salaire. Aujourd'hui, en général, dans les branches, c'est pas possible. Là, en fait, on peut arriver à ça, à 5 ans sans augmentation de salaire. Voilà. Oui. Voilà, ça c'était pour l'ordonnance numéro 1. Une petite coupure musicale. Les autres sont plus courtes.
Okay.
Et je vous annonce la suite sur les ordonnances 2, 3 et 4, 5.
C'est formidable. À tout de suite.
Je n'ai pas d'état d'âme, je vis dans le palais noir. Enfermé depuis la nuit des temps dans un épais brouillard. Cette ombre qui m'attend en forme de loup blanc. Et le serveur du palais où mes jours je finirai.
est de retour dans la causerie. On vient de s'écouter le titre Palais Noir du groupe Mansfield Tia. Et on continue notre...
Décortique tes ordonnances.
Voilà, décortiquage des ordonnances Macron et de toute sa clique.
Ouais, et donc j'en suis à l'ordonnance numéro 2. Mais vous allez voir, ça allait plus vite maintenant. Là, je vous ai donné la plus grosse, c'était la première.
Oui, alors, en même temps, c'est lourd ces trucs-là, oui. Mais voilà quoi.
L'ordonnance numéro 2, c'est le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Oui. Alors on va être très clair, ça veut dire plafonner ce que vous pouvez toucher au prud'homme si vous attaquez votre patron et qu'il est condamné. Je vous rappelle, quand un patron est condamné au prud'homme, ça veut dire qu'en fait, il a juste pas suivi la loi. Hein,
oui,
sinon,
ça,
il n'est pas condamné au prud'homme par définition. Et en fait, à quoi ça sert? Ça, c'est une revendication du MEDEF qu'il a depuis la création des prud'hommes quand même. Hein. Donc ça date un petit peu, des prud'hommes 1871. Oui, ça fait un petit moment qu'il veut plafonner ça. Il va l'avoir grâce à Saint-Macron, évidemment. Et donc, du coup, en fait, ça revient à quoi? Ça revient à pouvoir provisionner le fait de contourner la loi, tout simplement. Vous faites le calcul de combien ça va vous coûter quand vous virerez de façon anormale un salarié. Vous savez que ça va vous coûter tant de mois de salaire, vous pouvez le provisionner. Et en fait, ça s'appelle juste permettre aux gens de frauder.
Ah mais c'est exactement c'est ça. Hein. C'est exactement ça quoi.
Je peux donner un exemple par exemple de ce qui pourrait se faire, c'est si on pourrait faire ça aussi pour les meurtres.
Oui,
c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, un meurtre c'est tant de milliers d'euros, hein. Ça choquerait tout le monde hein, si on faisait ça. Hein. Mmh. C'est-à-dire si on disait le meurtre c'est tant de milliers d'euros, là en fait au prud'homme on dit, le juge il a pas à dire, il aura un barème et puis il appliquera le barème. C'est juste en fait tuer une part de la justice, c'est la justice prud'homale.
Ouais.
Voilà. L'ordonnance numéro 3, c'est le référendum pour faciliter l'adoption des accords d'entreprise. Alors, jusqu'à maintenant, les référendums en entreprise étaient uniquement à l'initiative des syndicats. Ça, c'est depuis la loi de 2008 et la loi d'El Khomri. Donc, 2008, c'était Bachelot et El Khomri qui l'a renforcé. Donc, les syndicats pouvaient demander un référendum d'entreprise. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça débile, les référendums d'entreprise, que ce soit les syndicats ou le patronat. Ouais. Mais il faut savoir que c'était une possibilité, mais jusqu'à maintenant, c'était limité aux syndicats. Le problème... c'est qu'aujourd'hui, on va le permettre à l'initiative du patron. C'est-à-dire qu'il va pouvoir poser comme question, par exemple, voulez-vous baisser vos rémunérations ou on ferme la boîte?
Oui.
Oui ou non?
Mais c'est ce qui s'était passé chez Smart, non, à l'époque?
Tout
ou chez Bosch?
C'est ce qui s'est passé chez les deux.
Chez les deux, bon, voilà.
C'est-à-dire qu'on vote on fait voter des accords, puis on dit, mais vous savez, il y a 80% des gens qui sont contre, ou qui sont pour plutôt. Donc, on applique l'accord, et puis voilà. Puis il y a plein de syndicats à qui ça permet de se planquer, qui après disent, c'est pas moi, c'est les salariés qui ont dit oui. Mm-hmm. Sauf qu'il faut voir comment est tournée une question. Un référendum, c'est une question unique, c'est comme tous les référendums. Donc on sait bien que de toute façon, c'est une énorme pression qui est mise sur les salariés. C'est surtout un moyen de contourner les syndicats. Pour être très clair, c'est le but. Hein. Et donc, le recours au référendum va être étendu, devrait être étendu. Donc, il y a fort à parier que les mises en opposition des salariés vont être maximum, avec le risque de faire exploser le collectif de travail. Mmh. Parce que quand vous faites un référendum, par exemple, je donne un exemple qui concerne les travailleurs de nuit. Mmh. Si dans votre entreprise, il n'y a que 15% des travailleurs qui travaillent la nuit, mais que vous faites voter 100% des salariés, les gens de nuit, souvent, vont voter contre l'idée, par exemple, d'être moins bien payés, mais les autres vont voter généralement pour, en se disant, on s'en fout, c'est pas nous, ça nous touche pas, parce qu'on est très égoïste, faut arrêter de se mentir. Donc voilà, ça va créer des tensions dans les entreprises, et c'est le but, diviser pour mieux régner, on y arrive toujours et encore.
Okay.
L'ordonnance numéro 4, elle redéfinit le rôle de l'accord de branche et elle réduit en fait leur nombre. Alors, faut être très clair, la plupart des syndicats sont pour la réduction du nombre de branches. Parce que finalement, d'avoir des dizaines de branches n'est pas forcément très pratique. Un exemple, dans la métallurgie, il y a 5 branches aujourd'hui. Donc on peut très bien avoir une seule branche métallurgie, ce serait pas bête. Le problème, c'est qu'il y a une entourloupe. C'est que oui, ils vont réduire le nombre, mais surtout on réduit la capacité d'action. Donc c'est bien, il y aura moins de branches, mais il y aura surtout moins de trucs dans les branches. Comme ça, c'est vachement bien. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, en fait, en renvoyant les salaires, les classifications, l'égalité professionnelle, la pénibilité, la formation professionnelle et la prévoyance au niveau de l'entreprise, la branche, elle a plus une grande utilité. Il faut arrêter de se leurrer quand même. Alors bien sûr, là, il y a une entourloupe qui dit oui, mais on va pouvoir continuer quand même avec les accords qui existent aujourd'hui. Oui, tant que dans l'entreprise, il n'y aura pas d'accord dérogatoire.
Oui, c'est ça.
C'est du foutage de gueule, parce qu'en fait, on sait bien que c'est pas du jour au lendemain que dans les entreprises, il va y avoir des accords dérogatoires. Donc dire que pendant 2-3 ans, les accords de branche vont continuer à s'appliquer, c'est une évidence. Vous voyez, c'est un peu, c'est juste le temps en fait que les choses se mettent en place dans les boîtes. Mais très clairement, si on réforme les branches comme c'est prévu, en réalité, on va supprimer toutes les parties de protection collective au profit de protection individuelle par entreprise. Hein. C'est l'idée, hein, très clairement. Et puis, ce qui est un peu dangereux aussi, c'est que dans ce qui est écrit dans l'ordonnance sur les branches, il pourrait aussi aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire carrément fusionner des branches qui n'ont rien à voir entre elles. Bah, par exemple, fusionner, je sais pas, je prends un exemple, la chimie, la pharma et la métallurgie ensemble. C'est pas tout à fait les mêmes métiers quand même, hein, vous voyez. Ou fusionner la restauration avec le soin à la personne, vu qu'il y a plein d'entreprises, vous savez, qui font les deux. Mm-hmm. Et qui demandent justement la fusion de ces branches. Parce qu'ils disent, bah, comme ça, on aura une seule branche, ça sera plus pratique. Eh oui, c'est-à-dire que c'est une réponse, encore une fois, au patronat. Hein, c'est faire un peu de tout et n'importe quoi. Alors, l'ordonnance numéro 5, elle, elle est assez marrante, c'est le regroupement des instances représentatives, hein, c'est-à-dire c'est la fusion des CE, CHSCT et DP. CE, comité d'entreprise, donc je vous rappelle que le comité d'entreprise, c'est celui qui a un droit de regard sur comment l'entreprise est gérée. Hein. C'est pas que les bons vacances, hein, c'est pas que ça. C'est un droit de regard sur comment l'entreprise est gérée. Le CHSCT, c'est le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, donc lui, il est très spécifique, hein, il doit veiller à vos conditions de travail, à comment vous
La sécurité des salariés, quoi.
Oui, ça va du risque psychosocial au risque, physique, hein, donc c'est extrêmement large, hein, ce que le CHSCT peut faire. Et les DP, délégués du personnel, qui eux, sont une instance de, d'action directe rapide, d'action rapide dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, un délégué du personnel, il peut saisir votre employeur et dire, là, il y a un problème de danger, donc il faut arrêter les conneries et vous n'avez pas à le faire, vous voyez. Et bien en fait, en fusionnant tout ça, c'est pas compliqué, hein, ça existait déjà, on pouvait le faire dans les entreprises de moins de 300 salariés, ça c'est la loi Rebsamen, qui date de 2015, hein, mais il faut croire qu'elle devait pas suffire. Voilà, donc ça on pouvait déjà le faire, ben non, là maintenant c'est pour toutes les boîtes, hein, quel que soit le nombre de salariés, machin. Le problème, c'est qu'en fait, chacune de ces instances a des rôles spécifiques. Or, si vous noyez le CHSCT au milieu des deux autres instances, ben en fait, vous enlevez le rôle spécifique du CHSCT. Oui. Je vous rappelle, amis auditrices et auditeurs, que c'est la seule instance dans votre entreprise qui peut porter plainte contre votre employeur pour mise en danger des salariés. Oui. Si vous la noyez au milieu des autres instances, vous inquiétez pas, vous allez avoir de moins en moins de plaintes auprès des employeurs. Surtout si dans votre entreprise, on a la bonne idée de voter pour des syndicats qui sont d'accompagnement. Vous voyez, c'est un peu là-dessus qu'ils misent. Hein. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont vu que la CFDT devenait un des premiers syndicats dans le monde, dans le privé. Ils savent bien qu'ils vont être moins emmerdés par la CFDT que par la CGT ou la CNT. Vous voyez, c'est un petit peu logique. Ou Solidaire et Sud. Donc voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une grosse instance dans laquelle on gère tout.
Oui, et puis ça... c'est aussi une forme de une forme de concentration de toutes les instances.
Moins d'élus. Donc plus d'élus professionnels.
C'est ça, en fait.
C'est l'idée. C'est-à-dire que moins d'élus, donc plus d'élus professionnels.
Et quand on a des élus professionnels, c'est ceux qui.
Regarde en Allemagne.
Oui.
Voilà, regarde en Allemagne comment ça se passe. Vous avez des gens qui sont élus professionnels, donc c'est leur métier, ils sont élus. Voilà, c'est représentant du personnel élu. Voilà, c'est leur métier et ça, bah, c'est jamais bon. Et on l'a vu en France dans des grandes boîtes. Hein, je pense à, il y a des grandes boîtes où quand vous aviez des gens qui étaient à 100% détachés pour le syndicat et qui faisaient toutes les négociations complètement détachés du terrain, ça a été le cas chez Air France, à la SNCF. Ça a été le cas aussi chez RVI pour les gens qui sont dans le coin, Renault Véhicules Industriels qui était à Vénissieux. Voilà. Bah, en fait, ça marche pas, quoi, parce que ces gens sont tellement.
Ça marche pas pour les salariés.
Oui, ça peut pas fonctionner.
Par contre, ça aide le patron.
Bah clairement, parce que le patron il a son pote, hein,
Pote.
Après ça vient du théâtre, quoi.
Oui, c'est ça,
Ils sont pas forcément tous vendus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Sauf qu'il arrive un moment où vous êtes dans une relation où elle est plus
très saine.
On est
dans une promiscuité, voilà. etc. qui devient...
Et puis surtout votre avenir, du coup, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce que le gouvernement dit, c'est qu'en plus on va pouvoir renforcer, comme ça, alors je passe à l'ordonnance 6, les moyens de dialogue social. Mais en réalité, on renforce que dalle. Parce que, en fait, quand vous faites quelque chose comme ça, c'est que, en gros, vous voulez pas que vous ayez un syndicat qui soit un syndicat de masse, vous voulez un syndicat où il y a une ou deux personnes qui dialoguent tout le temps avec le patron et qu'en fait, il n'en réfère jamais à sa base. C'est ça l'idée, hein, très clairement. Alors, bien sûr, ils disent, oui, mais on va renforcer la formation des élus, hein, et on mettra en place des mesures qui ne sont toujours pas précisées pour reconnaître celui-ci au niveau de la carrière et lutter contre les discriminations syndicales. Alors ça, c'est bien gentil, hein, ça fait bien sur le papier. Le problème, c'est que c'est déjà pas le cas aujourd'hui, alors que la loi l'oblige. On imagine bien que ce ne sera pas le cas demain.
Hein. Oui, c'est ça. Oui,
donc,
c'est
vous
ça.
Allez avoir des gens qui vont se retrouver donc à 100% détachés à faire ces choses-là, qui vont être entre le marteau et l'enclume, et en fait dont la carrière dépendra uniquement du patron. Voilà. Donc je vous laisse imaginer à quel point ils vont avoir la latitude de négocier. Voilà, c'est pas possible. Donc en fait, il va falloir réapprendre à ne pas négocier. Enfin, réapprendre à bloquer.
Oui, c'est ça.
Et oui, ça va être le seul moyen. Voilà. Je passe sur l'ordonnance numéro 7 sur les conseils d'administration, parce que c'est vraiment de la fumisterie. C'est en gros, dans les conseils des grosses boîtes, on pourrait mettre un ou deux salariés qui pourront aller représenter les salariés au niveau du conseil d'administration, mais ça ne sert à rien. L'ordonnance numéro 8, ça c'est par contre la plus grave et la plus dangereuse, c'est l'assurance chômage. Alors l'assurance chômage, elle est aujourd'hui gérée de façon tripartite par les syndicats et par le patronat. Tripartite, ce qui manque l'État. Oh, excusez-moi, je suis troublé parce qu'il y a des problèmes à la technique et j'arrive plus à parler. donc je disais, l'assurance chômage aujourd'hui, elle est gérée de façon tripartite. Donc elle est gérée par les syndicats, le patronat et par l'État. En fait, avec la réforme en passant tout sur la CSG, en réalité, le but c'est que ce soit l'État qui gère totalement tout et plus du tout les syndicats et le patronat. Donc en fait, c'est extrêmement dangereux parce que ça revient ni plus ni moins qu'à permettre à très court terme le fait de pouvoir tout simplement enlever votre protection salariale qui aujourd'hui est donc une protection dite mutualiste, mais si elle n'est pas vraiment dans les faits, mais c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas d'argent avec l'argent que vous mettez de côté, très clairement, et la passer au privé. Parce qu'une fois que l'État aura tout dans les mains, je vois pas pourquoi il pourra pas dire, il me faut 7 ou 8 milliards, 100 milliards, par exemple, et pour trouver 100 milliards, je vais revendre à AXA la branche, de protection des salariés, parce que voilà, AXA sait gérer ça, donc, moi, je sais pas faire. Vous savez, comme on dit toujours, l'État sait pas faire, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est très dangereux, et surtout, je vais rappeler que la CSG, elle est en réalité beaucoup plus impactante pour les petites gens que pour les gens riches. Elle est en réalité beaucoup plus impactante pour les retraités que pour les salariés. Elle est beaucoup plus impactante pour les gens qui ont tout bonnement un tout petit peu de fric de côté sur un livret A et qui vont aller le retirer. Vous voyez ? Et on ne parle pas de somme de... Voilà. Parce que très franchement, quand vous avez 4 milliards de côté et que vous retirez, qu'on vous en enlève 3%, ça ne va pas vous faire boiter. Par contre, quand vous avez mis 1000 euros de côté parce qu'à un moment donné, vous aviez un petit peu de sous à mettre de côté et puis qu'il faut changer la bagnole et que vous en enlève 3%, là, je peux vous dire que ça va vous faire beaucoup plus mal. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est un impôt totalement injuste. Et le fait de passer comme ça, le but, c'est de remettre dans la main de l'État uniquement la gestion en fait de la protection sociale. Et la protection sociale, c'est large. C'est les retraites, c'est la sécurité sociale, c'est le chômage. Donc vous voyez, en fait, on est en train juste de réétatiser ce qui n'a jamais été étatisé en France, pour être très clair. C'est-à-dire qu'on enlève la gestion tripartite. Alors le patronat, il est très content. Parce que le patronat, lui, il s'en fout. Si on pouvait privatiser ça, lui irait bien. Par contre, pour vous, et auditrices et auditeurs qui êtes salariés, ça veut juste dire que demain, tout ce que vous avez mis de côté jusqu'à maintenant pour votre retraite, tout ce qui a été mis de côté pour la sécurité sociale, tout ce qui est dans vos cotisations sociales, vous pourrez aller très rapidement enrichir de très très riches actionnaires de chez AXA ou je ne sais quelle autre grande multinationale ou Generali, tout ça, vous savez, les grandes multinationales de l'assurance. Voilà, c'était le tour des ordonnances. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça vous a donné très très envie d'aller marcher mardi.
Oui, c'est surtout ça parce que là, c'est leur projet.
Oui.
Mais on peut toujours défoncer leur projet.
Toujours.
On peut toujours les rendre impraticables. Et donc, c'est surtout ça en fait. C'est pas juste prendre ça comme merde, argent comptant, ils ont tout fait, ils vont tous nous avoir. Oui, c'est leur projet depuis des centaines d'années, quoi. Je veux dire, ils ont toujours l'envie de nous réduire au minimum, de nous payer le moins et de nous protéger le moins.
Oui.
C'est leur projet depuis longtemps, c'est comme ça. Enfin, je veux dire. Donc, mais on peut toujours, nous, collectivement.
Eh ben oui, peser. Alors, si tu es travailleur, mets-toi en grève mardi. Si tu es chômeur, viens mardi. Si tu ne fais rien, viens mardi.
Si tu es retraité,
viens mardi.
Si tu es lycéen,
lycéen, étudiant, viens mardi. Si tu es chauffeur de bus, pose ton bus. Non, mais voilà, l'idée, c'est quand même que c'est pas compliqué. Pour arrêter ça, il va pas falloir se rater. Il faut que dès mardi 12, nous soyons des millions dans la rue. Si c'est pas le cas, très clairement, ça va être très compliqué d'arrêter, ce qui n'est qu'une revanche du patronat sur les petites victoires qui avaient été obtenues au fil des siècles derniers.
Et même si je pense qu'une seule journée d'action ne suffira
amplement
pas.
D'accord.
Je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne à des durcissements de mouvement, à des blocages, etc. Parce qu'il n'y a que par l'économie et par le blocage de celle-ci qu'ils vont nous entendre, en fait. Parce que tant qu'on fait les... Attention, je ne suis pas en train de dire que les manifs, ça ne sert à rien.
Non, je pense vraiment que...
Mais il faut qu'on aille au-delà du mouvement spontané, enfin, du mouvement dans la rue.
Je suis totalement d'accord, mais je crois qu'on bloque un pays à plusieurs millions et pas à plusieurs milliers.
On est bien d'accord.
Donc voilà.
Et ben, on passe à un titre de musique, c'était ça le truc, c'est qu'on change de titre, enfin bref. Et,
ouais, on change de titre.
Oui,
comme
c'est parce qu'il est plus court.
De temps.
Voilà.
Ah, ok.
Allez. C'est ça. À tout de suite.
Celle qui tendait les bras, celle qui aimait si fort, mais qui ne le savait pas, qu'aimait encore et encore, ça vous brûle, ça vous donne. Celle-là qui les yeux clairs, marchait les bras grands ouverts, et qui voulait tout donner, et tout prendre. s'en est allé, le cœur d'amour éclaté. Les bras font envie de se tendre et d'attendre. Fut-elle innocence, fut-elle démence, qui donc le saura jamais, qui donc le saura jamais. Elle jouait tout enfant déjà d'attraper le vent dedans ses bras frêles, mais elle ne retenait rien. Le vent, ça va et ça vient, et c'est infidèle. Elle découvrit la mer, la garce lui fit son œil vert en robe d'écume. Elle se jeta dedans, ses cheveux blonds s'en mêlant au reflet de lune. Puis elle voulut aussi voler un morceau de nuit qu'elle pensait ébloui tenir tout contre elle. Mais revint le cœur chagrin, l'eau, ça vous glisse des mains la nuit. Ça va et ça vient, et c'est infidèle. Fut-elle innocence, fut-elle démence, qui donc le saura jamais, qui donc le saura jamais. On a crié c'est assez de vouloir t'écarteler, à donner à prendre, à vouloir donner ton sang, à te brûler tant et tant, tu deviendras cendre. Elle ne répondait rien, elle espérait quand soudain on se le rappelle. Comme l'hiver était venu, un homme lui est apparu qui marchait vers elle. Elle lui ouvrit les bras et l'homme s'y réchauffa. Tant qu'elle en devint belle, ce fut la nuit et le jour, le temps des chaudes amours. Et l'homme restait toujours, il était fidèle, innocence ou démence, qui donc le saura jamais. Il a dit écoute, j'entends les arbres craquer, la forêt s'est éveillée, je reprends ma route. Alors il tendit le bras, ce fut la dernière fois que son couteau se planta dedans l'infidèle. Puis calme, elle s'accoucha, c'est ainsi qu'on la trouva morte dans le petit jour. D'avoir trop aimé d'amour.
Dans la causerie sur Radio Canu 102.2 ou sur radiocanu.org. C'était Barbara avec l'amoureuse, je ne vais pas y arriver ce soir. Donc oui, l'amoureuse de Barbara, juste parce que j'adore Barbara et je vous conseille d'aller voir l'étrange film d'Amalric sur Barbara. Ce n'est pas un biopic, c'est un film étrange autour de l'œuvre. Voilà.
Il s'appelle comment ?
Barbara.
Ok.
Voilà, donc vous allez au cinéma, il y a marqué Barbara, allez voir. Voilà, et Jean-Yves, tu allais nous faire un petit tour de nos amis les religieux.
Mais oui, ce soir, je voulais vous proposer, enfin je vous propose ce soir, hein, comme je l'ai déjà fait dans le passé, un petit tour de nos amis les religions et leurs alliés politiques qui nous veulent tant de bien. Alors, je vous propose de partir tout de suite direction la Pologne, où là-bas, il y a une réforme en ce moment, enfin, il y a une réforme qui a été appliquée du système scolaire et des manuels d'histoire, hein, qui est menée par le PIS, c'est le, donc le droit, le parti Droit et Justice.
conservateur et bien plus, qui est donc au pouvoir. Et donc c'est une réforme qui a été réalisée en 8 mois, qui est rentrée en vigueur là en septembre. Et je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur cette réforme.
C'est un retour au système communiste, en fait.
Oui, c'est ça, c'est l'élimination d'un niveau scolaire, etc. Enfin, c'est vraiment dingue. Et évidemment, il y a eu des grèves de l'opposition de la part de profs, de parents, etc. Et la dernière en date, c'était lundi 4 septembre. Et pourquoi je vous parle de ça? Vous allez dire, mais enfin, qu'est-ce que ça a à voir avec les religions, etc. Eh bien, c'est parce qu'il y a un des points de la réforme qui est le suivant. Terminé Darwin et la théorie de l'évolution, les thèses sur l'apparition de l'homme n'apparaîtront plus en biologie, mais en cours de religion.
Non, mais ils ont copié sur Erdogan.
C'est ça, c'est donc comme en Europe comme le sultan Erdogan, dont je vous avais parlé dans l'émission 214, sur la fin de Darwin et de l'évolution avant l'université. Non, mais là, c'est même pas, on arrête jusqu'à l'université. Là, si on va vous parler de l'apparition des êtres humains, mais on va vous en parler en religion.
Bienvenue en Europe.
Et donc, voilà, c'est ça. Donc, à bas l'évolution, vive le créationnisme, et à bas la raison, et vive l'illusion religieuse. Voilà pour la Pologne. Hein. Je vous propose maintenant de partir en Australie. Alors là-bas, ça fait déjà quelques mois qu'on vit des débats interminables et de plus en plus violents sur la légalisation du mariage pour tous. Ça vous rappellera quelque chose?
Ouais, c'est un peu comme en France, quoi.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça rappelle absolument ce qui s'est passé en France, hein, avec les réactionnaires religieux, etc. Oui, parce que c'est toujours des religieux dont je vous parle.
Alors, oui.
Voilà.
Oui, la manif pour tous, c'était des religieux.
Oui, c'est ça.
Plein de religions, mais c'était des religieux.
C'est ça. Et sauf que alors là-bas, la différence avec la France, c'est que c'est un pays quand même anglo-saxon et que c'est pas pareil dans les débats, dans l'exposition des contre et des pour, etc. C'est pas comme ici. Hein. On a eu le droit quand même en France aussi à des posters dégueulasses, des affiches dégueulasses. Mais là-bas, c'est des spots, etc.
Enfin, la liberté d'expression totale à l'anglo-saxonne.
C'est ça. Et donc, ils font aussi, donc, comme je vous disais, hein, des spots télévisés, là, ces religieux, ces anti-mariages pour tous, dans lesquels on peut entendre, vraiment, hein, je vous le dis, hein, j'ai vu le spot, l'école a dit à mon fils qu'il pourrait porter une robe l'année prochaine s'il le souhaite. Voilà, c'est dramatique, hein, n'est-ce pas? Et ce spot se termine par... Dans les pays qui acceptent le mariage gay, les parents ont perdu leur droit de choisir.
Ah bon ?
Ouais, alors déjà, ce que je trouve très drôle, c'est cette notion justement de parentalité. C'est-à-dire qu'elle se fait par l'autorité et le choix.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait... Bah, c'était religieux en même temps. Ouais.
Oui, mais même, c'est quand même plus que religieux. Hein, dans beaucoup de familles, tout ça, on a quand même ça. C'est-à-dire que les parents choisissent absolument tout. Donc là, c'est toujours très drôle. C'est eux qui adorent tellement le bien des enfants, tout ça... Bon, c'est le bien des enfants, mais si on dirige leur vie, quand même. Hein. Donc c'est vraiment la même démagogie, etc. qu'en France. Hein. C'est exactement les mêmes mensonges, tout ça, tout ça. Alors je vous parle pas que de ça quand même en Australie, parce qu'il s'est passé encore un autre truc, c'est le dimanche 3 septembre, donc il y a une semaine. C'était dans une église orthodoxe à Melbourne, hein. Et des personnes étaient réunies pour une cérémonie en l'honneur d'une femme lesbienne qui s'était foutue en l'air. Et là, le prêtre, parce que là, donc cette loi, là, cette projection de loi pour le mariage pour tous, ça va être fait par référendum postal, mais qui ne sera pas décisif. Hein.
C'est
une forme de consultation,
c'est une consultation citoyennisée.
Voilà. Ouais. Et donc, évidemment, tout le monde se positionne. Et donc là, le prêtre a demandé à tout le monde de voter. Bah non, forcément. Ils n'aiment pas l'égalité. Et c'est alors qu'une femme s'est levée et a clairement dit « Je voterai oui ». Et là, le prêtre a dit « Honte à toi ». Elle est sortie, ainsi que la personne qui répond, enfin qui ramène ce témoignage. Elle dit que elle et d'autres personnes sont sorties parce que, bah déjà, parce que la personne pour laquelle ils étaient là, c'était une lesbienne, quoi. Donc à un moment donné, c'est juste recracher encore une fois sur un corps froid, quoi. Et donc là, la femme, enfin tout le monde est sorti, et c'est là alors que le prêtre a crié donc que tous les gays devaient être fusillés. Voilà, et il hurlait comme ça sur tout le monde. Alors évidemment, depuis, le prêtre s'est repris, attention, il a dit non, mais il s'excuse hein, de cet incident, bon, dont il se souvient quand même pas. Hein.
Ah ouais.
Donc ça, c'est déjà assez très drôle dans cette schizophrénie religieuse, c'est-à-dire qu'il se comporte comme la pire des ordures, ensuite il s'en excuse, mais il s'excuse de quelque chose dont il ne se souvient pas avoir... Bon, vraiment, moi, je dirais, consulte, quoi, je sais pas. Vois quelqu'un, parle-en. Donc voilà, c'est toujours cet amour hein, des représentants religieux, et pas que les représentants, envers les gens qui veulent juste l'égalité et tout ça. Et bon, alors après ce petit tour du monde, je vous propose de revenir ici, en France. Et donc la première info dont je voulais vous parler... Elle date de la fin du mois d'août, et elle concerne les protestants évangéliques. Bah oui, on en parle rarement de cette secte qui parle, cette religion, vous savez que c'est la même chose, hein, ce n'est la différence, c'est la
religion, c'est une secte qui a réussi.
C'est ça, c'est la reconnaissance étatique qui dit oui, toi t'es une religion. Avant c'est des sectes, mais après c'est des religions. Enfin bref, fermons la parenthèse. Et qui par le biais, donc les protestants évangéliques, qui par le biais du Conseil National des Évangélistes de France, qui prétend quand même parler pour 70% des évangélistes, et en partenariat avec, entre autres, les alliances évangéliques mondiales et européennes, ont adressé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU 12 recommandations sur la liberté de conscience en France. Alors pourquoi ils sont dit, pourquoi ils écrivent à l'ONU, au Conseil, tout ça? En fait, c'est parce que tous les 4 ou 5 ans, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examine l'application des conventions qui portent sur les droits de l'homme dans les pays membres de l'ONU. Ce qui est logique, hein, vous suivez les règles qu'on a édictées, quoi. Et donc la France y passera en janvier-février 2018. Donc forcément, là, ils sont tous en train de... Tu vois, les religieux, ils sont en train de se dire, bon, là, il faut vraiment qu'on sorte, qu'on défende notre bout de pain. Et donc, parmi leurs revendications, le CNEF, là, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, demande l'ajout à la loi Taubira de 2013, donc, qui porte sur...
Le mariage pour tous.
Voilà. D'une clause de conscience qui permettrait aux élus municipaux de ne pas célébrer de mariage de personnes de même sexe lorsque les convictions s'y opposent. Ben oui, il faut respecter leur haine qu'ils ont des gens qui sont LGBT, forcément. Mais oui, soyons tolérants avec leur haine. Autre recommandation, bon, c'est un peu la même chose, tu me diras. Elle souhaite une modification du code de la santé publique, ça c'est sympa aussi, pour prévoir une clause générale d'objection de conscience pour l'ensemble des soignants, notamment dans les domaines de la procréation et de la fin de vie. Bien évidemment, tout en garantissant quand même hein, l'accès aux soins. Donc ça veut juste dire, encore une fois, que ceux qui sont croyants et croyantes, bah, ils auront le droit de dire bah, « Non, vous, je m'occupe pas de vous, hein, parce que vous êtes contraire à mes convictions religieuses. » Voilà. Et l'autre aussi, hein, donc le CNEF, là, toujours ce conseil national des évangélistes de France, ben voudrait en outre que les programmes de l'éducation nationale et les méthodes pédagogiques respectent la liberté de pensée, de conscience et de religion des élèves et de leurs parents, notamment s'agissant de l'éducation à la sexualité et à la présentation du fait religieux.
Oh, c'est la manif pour tous, quoi. C'est toujours les mêmes. Enfin, les réacs, tous ensemble.
C'est quoi. Ça, c'est toujours pareil. Hein. Donc, moi, ce que j'aimerais un peu souffler à ces gens qui parlent toujours pour leurs enfants, c'est laissez-leur déjà leur liberté de conscience à vos enfants, en fait, avant de les embrigater dans vos religions, et quelles qu'elles soient. Hein.
Non, par exemple, moi, je suis pour l'interdiction de la religion avant 18 ans.
Moi aussi.
C'est une provocation volontaire de ma part.
Ah non, mais alors, sérieusement, moi aussi, quoi. Je veux dire, ils viennent te parler de liberté de conscience, laissez-la déjà à vos enfants, en fait, avant de les embrigader. Et enfin, hostile au délit d'entrave numérique à l'interruption volontaire de grossesse, on en avait parlé aussi ici. C'était
des faux sites en fait.
C'est ça, c'est
des sites qui se faisaient passer pour des sites d'information
sur l'IVG,
mais qui en fait étaient des sites anti-IVG,
qui donc dirigeaient les informations,
qui en fait mettaient les femmes dans des situations dramatiques parce qu'elles n'avaient pas les bonnes infos.
C'est ça. Et ben donc c'est rentré récemment dans le droit. Et ben ce conseil des évangéliques plaide pour que la liberté d'expression et de communication soit garantie pour permettre la mise à disposition d'informations pluralistes à ce sujet, sur des sujets délicats.
Bah évidemment.
Donc la désinformation sur l'IVG, pour eux, c'est juste de l'information
pluraliste.
Oui. Pluraliste.
Non, c'est pour ça que je dis évidemment, c'est-à-dire que c'est un détournement des sens des mots. Quoi. Enfin,
c'est exactement ça, c'est ça. Et donc, c'est ce que je me disais, hein, c'est qu'on voit bien leurs revendications, enfin leurs recommandations, ne sont empreintes que d'amour et de recherche d'égalité, de traitement, tout ça.
Et de fraîche.
Oui, c'est ça. Et c'est pour cela, en fait, qu'il et elle dénoncent, dans leur texte, hein, je le cite encore une fois, une société française fortement sécularisée et méfiante vis-à-vis du fait religieux. est marquée, je continue, par, je les cite, la, la difficile acceptation d'un pluralisme d'expression sur des sujets sensibles.
Oui, en gros, ils veulent faire sauter la loi de 1905. Enfin, ils ne l'écrivent pas comme ça, parce que c'est pas bien, mais
c'est ça.
C'est ça, quoi.
Et donc, le CNF estime que la situation justifie la nécessaire vigilance des États membres de l'ONU.
Alors, vous savez pourquoi il dépose ça ? C'est parce que dans ce fameux conseil là des droits de l'homme est rentré un pays très sympa, oui, qui est l'Arabie Saoudite, oui, qui est, en fait, aujourd'hui, appuie toutes ces demandes-là.
Mais bien évidemment, comme, voilà, comme le Vatican, etc.
Ah oui, hein. Et donc, voilà. Le Vatican, oui, il est qu'observateur à l'ONU pour l'instant. Mais par contre, l'Arabie Saoudite est un État. Oui. Donc, en fait, est membre de, à part entière et va servir de porte-voix.
C'est ça. C'est, donc, ça, l'idée, c'est magnifique, n'est-ce
c'est
pas
beau. Moi, je trouve compte aussi sur le Honduras.
Oh, certainement.
Bah oui, oui.
Il compte sur plein de pays où là, les religieux ont le pouvoir, en fait.
Aux politiques réac, pas les gens.
Voilà. Donc, bah, voilà pour cette info. Hein. Et la deuxième, bah, celle-là, elle nous amène directement à Lyon. Lyon, hein, où vit une ville où religion et homme-femme politique est une longue histoire d'amour, bon, de pouvoir aussi, hein, sûrement. Bon, c'est peut-être plus de pouvoir que d'amour. Et donc, tous les 8 septembre ont lieu les traditionnels vœux des échevins.
Oui.
Voilà. Et les élus lyonnais, hein, donc, se rendent à cette occasion à la basilique de Fourvière pour remettre un écu d'or symbolique aux autorités religieuses avant d'assister à la messe solennelle et à la bénédiction de la cité par l'archevêque. Gérard Collomb, hein, ancien maire de Lyon et actuel sinistre de l'intérieur, bah, comme bon nombre de ses prédécesseurs et comme ses successeurs, hein, sont friands de ce genre de trucs-là. Ils adorent ça.
Oui.
Ils adorent ça. Et donc, cette cérémonie, quand même, pour la recaler, hein, la recadrer, cette cérémonie remonte à 1643, hein, où les édiles avaient promis en leur temps de prêter allégeance à l'Église pour peu que la Vierge Marie protège la ville des épidémies. Bah, évidemment, hein, la Vierge a sauvé la ville. Évidemment, parce qu'on est là, on vous parle, c'est grâce à la Vierge, pas du tout à la médecine, tout ça, ou non, non, du tout.
Ou hasard d'ailleurs à l'époque, parce que...
Ou hasard. Et donc, nous nous trouvons donc encore une multitude, hein, d'ahuris politiques qui, par leur participation à ce genre de conneries-là, parce que quand même, là, à un moment donné, penser que c'est une Vierge qui a sauvé une ville, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment, là aussi, remettre de la raison. Et ben eux, ils adorent ça, hein, parce que, ben, en même temps, ça donne du pouvoir aux religieux, toujours, ah, c'est ça, et dit. Toujours. Et j'en profite quand même au passage. Je me dis dommage quand même que la Vierge ne puisse protéger en fait les enfants victimes des prêtres pédophiles, hein, protégés par Monseigneur Barbarin, celui-là même qui reçoit les élus et que les élus aiment beaucoup. C'est vraiment dommage et je me disais si seulement les enfants étaient des villes. Voilà. Et donc, concernant cette cérémonie de vœux, hein, il y a quand même 6 associations et je suis plutôt content d'entendre ça, même si, encore une fois, là en tant qu'anard, je me dis. On n'y était pas et ça me fait bien chier. En tout cas, je parle pour moi. Il y a donc 6 associations qui ont quand même dénoncé la participation des élus à cette mascarade et à cette cérémonie et qui ont manifesté à Fourvière. Donc ça, c'est quand même bien. Merci à vous.
Et d'ailleurs, si vous êtes à l'écoute, on essaiera de vous joindre peut-être pour vous avoir à la causerie.
Oui. Oui, vraiment, parce que c'est important. C'est pas une bagarre du passé, la laïcité.
Tout à fait.
Et donc, je me permets une petite rallonge. Ouais, je sais, on dépasse un petit peu, mais je me permets une petite rallonge concernant donc ce sinistre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et de sa vision de la laïcité. Parce que lui, comme le petit Macron, en fait, hein, ils ont un truc qu'ils aiment bien, la laïcité de liberté. Hein, parce que c'est vrai que...
Donc dès que tu mets un mot derrière laïcité, c'est que tu veux tuer la laïcité.
C'est ça.
C'est par définition comme ça.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc dans le volet culte, hein, de la feuille de route qui a été confiée à ce ministre de l'Intérieur par l'Élysée et Matignon, le ministre de l'Intérieur donc promet, ce que je vous disais, cette laïcité de liberté. L'instance interconfessionnelle de dialogue et de discours qu'il doit mettre en place d'ici décembre 2017... Hein, donc on va vraiment sur cette création d'une instance interconfessionnelle. Elle est inspirée directement de l'expérience lyonnaise de ce grand-mère et ancien grand-mère et ce donc ministre de l'Intérieur. Et donc ce ministre de l'Intérieur et des cultes a donné le ton en décrivant sa conception apaisée de la laïcité, hein, je reprends ces mots, dans une lettre adressée en juin à Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon. Et au lendemain de sa nomination au ministère de l'Intérieur, le cardinal Barbarin, celui dont je vous parlais avant, qui protège les curés pédophiles, le cardinal Barbarin avait dit dans le Progrès, je cite, hein, « Il a mieux compris que d'autres que la laïcité ne se construisait pas en opposition avec les cultes, ni même en leur absence, mais dans un dialogue franc et confiant avec les croyants. Celui-là même qui permet aussi de dire nos désaccords. C'est beau, hein. Vraiment, quand on les écoute comme ça, on pourrait se dire waouh, c'est presque des gens bien. Puis après, on regarde leurs actes. Et concrètement, donc, la transposition de cette approche lyonnaise passera par des réunions au niveau national d'une instance informelle de dialogue et de concorde, annoncée, donc, ce que je vous disais, hein, dans la feuille de route qui a été adressée au préfet le 5 septembre. Donc mardi dernier. Une instance comme Gérard Collomb avait créé à Lyon en 2002 suite à un attentat dans une synagogue, enfin contre une synagogue à la Duchère. Depuis, le groupe Concorde et Solidarité se réunit une fois par an autour du maire à l'hôtel de ville en présence des représentants de grandes religions. Et ce que j'allais dire quand même, une petite remarque.
Pas de représentant athée.
Bah non, de toute façon les athées ils pensent pas, tu sais bien, c'est un manque, c'est un vide. Mais je me disais, les raéliens, les pauvres.
Ils sont pas représentés.
Personne les écoute, en fait. C'est de la raélophobie. Et ça, je trouve que c'est pas très sympa de pas reconnaître aussi les autres sectes. Et donc, je termine quand même, pardon. Il s'était
tu
fait
es taquin, ce
oui,
soir.
Très. Dès qu'il s'agit des religions. Il s'est fait entendre en période de tension, hein, donc ce groupe Concorde et Solidarité, comme le lendemain des attentats de 2015. Et ce que dit le grand rabbin de Lyon, c'est que c'est une cellule de crise opérationnelle. Ce lieu d'échange contribue à créer, je le cite, un climat apaisé entre les grandes religions, c'est ce qu'il dit encore le grand rabbin, et il dit, ce groupe manifeste que la religion a sa place dans l'espace public. Et avant de terminer quand même, j'allais demander, donc ce méchant état sécularisé là, hein, celui qui est tout méchant, tout ça avec sa laïcité, mais que les religieux sont quand même bien contents de trouver en fait. J'ai l'impression quand j'écoute ce que dit le grand rabbin, parce que sinon elle serait pas dans un climat apaisé. C'est ça que je me dis en fait, c'est si Papa État était pas là en fait, il se mettrait sur la gueule en fait.
C'est ça. En fait, si t'en as la loi de 1905, on sait ce que ça donne.
C'est exactement ça, des guerres de religion. Donc voilà, hein, les religions sont toujours de la merde. La lutte pour à minima la laïcité est un combat toujours actuel et toujours contemporain, à moins d'avoir de la merde dans les yeux et dans les oreilles. Parce que si vous regardez le monde, la laïcité, c'est on est minoritaire en fait. Donc ceux et celles qui aiment à se battre pour les minorités, eh ben arrêtez de faire passer les religieux pour des minoritaires en fait à travers le monde. Ou alors si vous regardez le monde avec vos petites frontières bien franco-françaises, et là encore une fois vous êtes de loin pas internationaliste, mais bien nationaliste.
Contrairement aux religions qui sont internationalistes.
Mais bien évidemment, enfin. Mmh. Voilà.
Bah merci.
Mais je vous en prie.
Et là il faut que je fasse un jingle bref.
Jingle bref.
Waouh. Tant de moyens dans cette causerie.
Pouf, c'est énorme. C'est... Alors on va donc faire des brefs parce que c'est de nouveau fini les vacances. Donc ça y est, il se passe des trucs.
C'est ça.
Donc le lundi 11 septembre par exemple, vous pouvez aller à la conférence gesticulée Le travail est un sport collectif pour parler de la souffrance au travail et de ce qu'est le travail. C'est à la Bourse du Travail, métro Place Guichard à 18h30 dans la salle des congrès. C'est à prix libre. C'est notamment les jeunes CGT qui propose ça, avec d'autres groupes, et c'est une intervention de Christophe Abramowski, pour ceux qui connaissent, qui sont allés sur les plateformes de vidéos en ligne et qui ont tapé Christophe Abramowski, vous pouvez voir ce qu'il fait. Voilà, okay. Donc 18h30 pour du travail lundi soir.
Et ça continue, donc le lundi, on retrouve donc les permanences juridiques aux sans-papiers et à leurs proches à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, dans le 7e, à partir de 18h30 tous les lundis.
Et toujours lundi, un appel à rassemblement de soutien aux migrants par Agir Migrants Lyon. C'est un groupe de 120 personnes qui viennent en aide à 150 migrants. Et c'est à 19h au 20 rue du Lac, dans le 3e, devant la métropole. Donc 19h, 20 rue du Lac, dans le 3e, devant la métropole.
Et on passe à mardi 12 septembre. Ça, c'est en lien avec ce que Fab nous expliquait en début de d'émission. C'est donc la manifestation contre la casse du code du travail et la politique de Macron. À Lyon, c'est à 11h30, manufacture des tabacs, c'est au métro Sans Souci. Regardez, parce qu'il y a, je crois, il y a plus de 120 ou 160 rassemblements à travers la France, ouais. Mardi 12.
Il y en a forcément un côté chez vous.
C'est ça. Donc allez-y, foncez. Et puis on rappelle que tout le monde peut faire grève.
Oui, voilà. Alors, je rappelle juste ça. C'est-à-dire que le droit de grève est en France constitutionnel et individuel. C'est un appel national. Donc, sauf si vous relevez d'un emploi où vous devez prévenir 48 heures à l'avance, ça vous le savez, votre patron l'a dit, bah, sinon, vous pouvez faire grève tout simplement mardi sans même avoir prévenu votre employeur. Voilà.
C'est ça.
Oui. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs AG de lutte à la fin. Voilà. Mais comme il y en avait plein, on les a pas listées. Elles seront annoncées sûrement dans les manifestations. C'est voilà. Ça. Jeudi 14. Jeudi 14, il y a des rencontres avec les membres du bureau du syndicat de la magistrature autour du premier numéro de la revue Délibérée, qui sort le 14 septembre. D'ailleurs, ça tombe plutôt bien. C'est à la librairie Le Bal des Ardents, 17 rue Neuve, dans le premier à Lyon. C'est à 19h. C'est une revue de vulgarisation et de combat. Le numéro s'ouvre sur une carte blanche à Jean-Marie Delarue, aux fonctionnaires, pour en finir avec la fureur sécuritaire. Voilà.
Okay.
C'est donc la revue du syndicat de la magistrature.
C'est ça. Et samedi 16 septembre, alors ça se passera à la librairie La Griffe, c'est une rencontre débat autour de Andy Gang, un roman de Karazina, en présence de l'auteur le 16 septembre donc. La Griffe, c'est toujours au 5 rue Sébastien Griffe dans le 7e, c'est à partir de 15h. Et dans ce roman, Andy Gang, aux éditions Libertalia, l'auteur aborde avec humour une nouvelle insurrection à venir. Un groupe de jeunes invalides, sourds, muets, se mobilise à Lyon avec une rage contre toutes les injustices, celles qu'ils subissent, et contre le monde qui génère toutes les autres. Karazina, née en 68, ancienne punk, est aussi une amie de Virginie Despentes.
Ben ça va l'air vachement intéressant, ça.
Ouais.
Et il y a un rassemblement de soutien au droit à l'avortement dans l'Europe entière. Donc ça, c'est à 14h30 devant le consulat d'Italie. 5 rue du commandant Forax, dans le 6e, donc c'est samedi 16. Hein. Parce que le droit à l'avortement est menacé partout en Europe par la vague réactionnaire actuelle, et en particulier en Italie, où ils veulent remettre des clauses assez bizarres sur l'avortement.
Clause de conscience, tiens.
Clause de conscience, par exemple. Voilà.
Ça rejoint ce que voulaient les évangélistes français.
Tout à fait.
Et on termine par dimanche 17 septembre. Ce sera la causerie.
Ce sera bien.
Et on recevra Anne. Alors Anne, on l'avait déjà reçue en compagnie d'une autre personne. Elle venait avec l'Institut Égaligone. C'était la causerie 199. Et cette fois-ci, Anne viendra nous causer d'un boulot qu'elle a fait, d'une étude, on va dire, qu'elle a fait autour du parcours des personnes engagées pour l'égalité des sexes. Donc voilà, nous on trouvait que c'était intéressant de poser peut-être un regard sur tout ça, sur les positions de chacun, de chacune, etc. Donc on vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu, toujours au 102.2 sur Lyon et via internet partout ailleurs.
Vous n'allez pas dire qu'on vous bichonne pas. Hein.
Oh bah, il manquerait plus que ça, tiens. Eh ben, oui, il est largement l'heure.
Oui.
On passe le titre ou...
Ah bah oui, quand même.
Ouais.
Oui.
Ok, d'accord. Et alors, on passe un titre et ce sera On se quitte avec Espèce de con. Oui, pardon, c'est plein de vulgarité. Et c'est de Phrasiac en duo avec Jérémy Bosson. Et voilà, je vous invite à découvrir un peu plus ce que fait cet artiste aussi, c'est très intéressant.
Et bon courage à ceux et à celles qui travaillent demain. Bon courage à ceux et à celles qui ne travaillent pas demain. Bon courage à tout le monde.
Oui.
Et voilà.
Et rendez-vous mardi dans la rue. Soyons nombreuses et nombreux.
Yes.
Et bon courage, bonne nuit, tout ça. Des bisous.
Des bisous.
Ciao.
C'est pas une espèce protégée, y a pas de danger qu'elle disparaisse. Ça se reproduit l'hiver, l'été, ça fait pas trop dans la finesse.
Ça a un cœur qui bat tout rouge, pourtant ça tire sur tout ce qui bouge. De tous les côtés des frontières, ça joue aux soldats, à la guerre.
Ça s'éclate à la guérilla, ça FSB, ça CIA. Au fond des millénaires, de larmes et de sang et rivières. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. Espèce de... Ça construit des murs à Berlin, Jérusalem ou Tijuana.
Pas saquer ses voisins pour vivre heureux, vivons chez soi.
Ça génocide, ça vocifère, ça apartheid, ça terrorise.
Pour le pouvoir, pour un bout de terre, faut que ça se bastonne, faut que ça se détruise.
C'est une espèce un peu à part, le fruit dont c'est trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. C'est une espèce un peu à part, le fruit dont c'est trop quel hasard. Un vertébré, un peu timbré, un peu truffion.
Espèce de...
Espèce de...
s'agenouille, ça prie des dieux, mais faut que ça zigouille dès que ça peut.
Ça inquisitionne, ça croisade, ça colonise et ça djihad. À coup de missile, à coup de roquette, ça va faire péter la planète. L'humanité disparaîtra, bon débarras. C'est une espèce un peu à part, le fruit dont on sait trop quel hasard. Un petit bipède, un gros cerveau, un vrai champion. C'est une espèce un peu à part, le fruit dont on sait trop quel hasard. Un homo sapiens imbécile, un bon couillon. Un singe qui a mal tourné, qui est devenu cro-magnon. C'est le nom d'une espèce guerrière à l'unisson. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con.